quitter le pays de toutes les douleurs, affronter l'inconnu, refuser la violence d'un pays en guerre, défier le destin qu'on nous a prescrit, tourner le dos à ce passé si récent, rassembler tout son courage et puis partir. Fuir, au moins autant que se reconstruire, dans ce pays si nouveau, si développé, si éclairé, si civilisé. L'espoir, la France. 22 juin 2000, aéroport Charles de Gaulle, terminal 2. Je touche enfin le sol français. Visa de tourisme, 3 mois. Billet de retour, 14 septembre. Avant la tour Eiffel et l'Arc du Triomphe, visite de la préfecture à l'aéroport. Bonjour, mes filles et moi sommes en danger dans notre pays. Je demande l'asile.
New Marta Feliz. Nouvelle Marta Heureuse. @hotmail.com. C'est l'adresse mail que j'ai choisie pour cette nouvelle vie. Un peu en anglais, ça fait moderne, comme je ne connais pas encore le français. Et puis c'est le cap que je me suis donné pour mon avenir, ma nouvelle vie. Être heureuse. Cette adresse mail, c'est la première fois que j'en ai une. C'est surtout pour garder contact avec ma famille, mes parents, mes frères, mes cousines, qui sont restés là-bas. Pour garder un petit lien avec mes proches, qui sont maintenant si loin. Je ne sais pas vraiment quand je les reverrai.
Pour peindre un tableau fidèle de toutes les souffrances auxquelles est en butte la femme seule et étrangère, nous croyons devoir commencer par la représenter dans une de ces grandes et populeuses capitales, centre de civilisation. Et Paris nous fournira plus de matière qu'il n'en faudrait pour glacer le sang dans les veines de toutes les personnes qui ont reçu de la nature la faculté de comprendre le malheur d'une position pénible.
J'arrive chez ma sœur. Elle habite avec son mari dans une toute petite pièce. Je n'ai jamais vu un appartement aussi petit. Elle a un lit qui se plie et se déplie. Un soir, elle dort dedans avec son mari et nous dormons, mes filles et moi, sur des couvertures par terre. Et le soir suivant, c'est nous trois qui dormons sur le lit et eux qui dorment par terre. Je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression de gêner quel que soit le coin où je suis. J'ai l'impression que les enfants parlent trop fort, qu'on prend trop de place. À l'OFPRA, on m'a parlé de la CAFDA. Je ne sais pas ce que veulent dire tous ces sigles, mais il paraît qu'ils peuvent nous aider à obtenir un hébergement. Je vais me renseigner. Je ne veux plus rester ici.
C'est donc de Paris que nous parlerons d'abord. De ce Paris qui, depuis si longtemps, a obtenu un renom européen pour l'affabilité de ses habitants. Et nos paroles de blâme auront d'autant plus de force que jusqu'ici, aucune autre ville n'a pu rivaliser avec lui. Si parfois nous entrons dans des détails qui pourront paraître minutieux, c'est que tous les petits désagréments forment des peines véritables et d'autant plus cuisantes qu'elles se renouvellent à chaque instant de la vie.
La préfecture. Tous les mois, je dois aller à la préfecture pour renouveler mon récépissé. Récépissé, récépissé, récépissé. Quel drôle de nom. C'est une sorte de pièce d'identité jaune ou verte ou bleue, mais il y a d'autres couleurs aussi. Il y a des petits œillets sur le côté, on dirait juste une blague. Toutes ces ribambelles de couleurs. On m'a déjà dit à la CAF que mon récépissé n'avait pas la bonne couleur. Il faut se lever à 4h du matin, arriver à 5h sur place, faire la queue qui fait déjà plusieurs dizaines de mètres à l'extérieur, comme pour un match de foot international. Le mieux, c'est de venir quand il pleut ou quand il neige. Il y a quand même moins de monde. La préfecture n'ouvre qu'à 9h et je ne serai reçue qu'à 11h. La dernière fois, j'ai dû attendre jusqu'à 14h. Moi, je suis venue pour une nouvelle vie, laisser le passé derrière moi, mais je ne sais pas pourquoi ici, ils mettent tous mes papiers au nom de mon mari. Ils disent que c'est parce que nous n'avons pas divorcé. Mais moi, je n'ai jamais porté son nom. C'est un peu archaïque quand même. Déjà qu'en Colombie, je trouvais ça abusé que les enfants portent en premier le nom de leur père. Et voilà qu'ici, les femmes portent le nom de leur mari.
Si cette étrangère reçoit chez elle un parent, un compatriote, un homme d'affaires, On jugera tout de suite, selon la charité chrétienne qui se pratique dans les hôtels garnis, que cette étrangère vient à Paris avec de mauvaises intentions. La maîtresse d'hôtel le craindra. Les personnes qui habitent chez elle n'en douteront pas, et enfin les domestiques s'en rendront garants. Nous ne saurions dire d'où viennent tous ces usages qui existent dans presque tous les hôtels garnis, mais ils sont exacts, et nous relatons ici les faits.
L'argent. J'ai emprunté 10 millions de pesos à un cousin pour payer les 3 allers-retours pour mes filles et moi. Il faut que je rembourse vite. Il me faut du travail. Il paraît que c'est l'été et qu'il n'y a pas de travail pour garder des enfants l'été. Pourquoi je suis venue en été? Il n'y a pas l'école l'été, alors même si je trouve un travail, je laisse mes enfants où? On m'a proposé de nettoyer les vitres des magasins Place des Vosges, à l'aube, 40 francs de l'heure. Il me confie les clés et moi, je dois refermer les magasins. J'ai vu qu'il y avait des manteaux à 45 000 francs. Et c'est moi qui ai les clés. C'est trop de responsabilité. Si un jour il y a quelqu'un qui essaye de rentrer des forces pendant que je suis seule à nettoyer, je serai responsable. Je ne ferai pas ce travail, je ne le sens pas. Et comment c'est possible d'avoir un manteau à 45 000 francs?
Ça y est, j'ai obtenu une place en centre d'hébergement. Enfin, c'est un hôtel. Hôtel Lutèce, 18 rue Lécluse, métro Place de Clichy. Enfin, nous ne serons plus un poids pour ma sœur, je ne savais plus où me mettre. La chambre est toute petite, les draps sentent le moisi, l'eau sale remonte dans la douche et une colonie de souris vit sous l'armoire. Les lattes sont cassées et quand on dort, les filles, elles tombent sur moi. Hier, j'ai soulevé le papier peint et il y avait des dizaines de petits cafards. Comme tête de lit, il y a une immense photo de plage, de sable fin et des palmiers. Ça doit être dans les Caraïbes. Dehors, il fait 2 degrés. Ils ont de drôles de façons d'essayer de te faire oublier la réalité, les Français. Dans les fenêtres de l'hôtel d'en face, tout le monde a les mêmes briques de lait rose, le même café et les mêmes barquettes de nuggets décongelées. On se fournit tous au resto du cœur. C'est pittoresque. Ma mère ne croirait jamais à la technologie pointue des frigos européens prévus pour ne pas prendre de la place dans nos minuscules intérieurs. La nuit, je n'éteins pas la lumière et je dors à moitié éveillée. Je me tiens prête, avec une chaussure à la main. Et avec ma plus grande fille, on joue à deviner le moment où une souris va sortir et on lui saute dessus. Le prix des chambres est affiché en bas. 40 euros la nuit. J'ai fait le calcul, ça fait environ 1200 euros par mois. Payé par la CAFDA ou par le SAMU social. Comme on donne la moitié et je loue un studio propre où je pourrais cuisiner, où j'aurai mes propres clés, où personne ne rentrera fouiller et voler, où je pourrais déchirer le papier peint et repeindre, et où je pourrais avoir un logement pérenne. Les familles de plus de 4 personnes ont 2 chambres. Ça fait 2400 euros chaque mois. Et on doit appeler chaque semaine pour savoir si on reste ou si on est transféré dans un autre hôtel. On déménage sans arrêt, sans qu'on comprenne véritablement la raison. Nous avons habité pendant 2 ans dans des logements de fortune. La France, je n'ai jamais vu de pays aussi riche et aussi stupide.
Si l'étrangère a une personne qui soit venue la recevoir à son arrivée, cela diminue de beaucoup ses désagréments. Mais si le contraire a lieu, ce qui n'arrive que trop souvent lors de son arrivée dans le fameux hôtel d'Angleterre, elle sera reçue avec un certain air que nous ne saurions qualifier. Vous êtes sûr qu'on commencera par lui adresser ces mots. Madame est seule, en pesant sur le mot seule. Et d'après sa réponse affirmative, on dira au garçon ou à la fille de la conduire dans la plus mauvaise chambre de la maison. Elle ne sera servie qu'après tout le monde, et Dieu sait de quelle manière. Cependant, on lui fera payer sa mauvaise chambre 10 francs de plus qu'on ne lui fit payer à un homme. Pour tout le reste, il en sera de même. Et cela se rencontre partout.
La Provence. Aujourd'hui, j'ai vu une amie que j'ai rencontrée à la CIMADE, colombienne aussi. Elle est envoyée dans un foyer à Fort Bach, avec ses deux enfants et son mari. Il paraît que c'est dans le nord qu'il fait froid, qu'elle aura une chambre dans un appartement qu'elle partagera avec une famille turque et elle ne sera plus dans des hôtels. J'espère que nous ne serons pas envoyés dans un foyer en Provence. Paris, c'est l'enfer, mais il y a du travail.
Quant aux villes de province, nous pouvons assurer que le sort des étrangères n'y est pas meilleur qu'à Paris. Dans les villes de premier ordre, elles trouvent le même isolement que dans la capitale, le même égoïsme, la même insouciance et moins de politesse. Pour les autres localités, si elles sont moins corrompues, la différence y est remplacée par une curiosité insolente. Si dans les grandes villes, on ne s'occupe nullement des étrangères, là, on en fait l'objet de conversations. Mais quant à un intérêt réel, ils n'en obtiennent ni dans les unes ni dans les autres. Si une femme seule en voyage veut visiter ce qu'il y a d'intéressant sur la route, elle ne pourra le faire qu'avec beaucoup de peine, et avec la certitude d'être ensuite le sujet de toutes les conversations des notabilités du village.
Nettoyer la merde des autres, des Français, des bourgeois et de leurs familles, de leurs enfants capricieux, de leurs vieux croulants, de leurs chiens gâtés. Laisser mes filles seules à la maison, me lever à 4 heures pour nettoyer des bureaux, savoir que mes filles partent seules à l'école, travailler toute la journée à Nation, à Stalingrad, à Auteuil, ici les Moulineaux, et enfin rentrer à la maison, faire le dîner et repartir à 21 heures, nettoyer des cabinets dentaires, des cabinets d'avocats, rentrer à minuit, repartir à 5 heures, ne voir mes enfants ni matin ni soir, être loin de mes parents malades. Allez, j'ai quelques sous à la fin du mois. Je vois quasiment tout ce que je gagne et je n'aurai bientôt plus de dettes. Mon billet de retour est largement dépassé. Mais entre un travail et un autre, je pense à mon travail en Colombie, à ma vie là-bas, et je me surprends à avoir envie de rentrer. Chez qui ma sœur travaille, nous a aussi donné un sac de vêtements. Tout est bon à prendre. On porte tout dépareillé, on ne choisit pas nos vêtements. Les chaussures sont usées et un peu trop serrées pour moi, elles me font mal. Maman, je veux pas porter ce manteau. Mais si, ma chérie, il est très bien ce manteau. Non, je veux pas le mettre, il est horrible, il est gris, c'est un manteau de garçon, il est troué, il est trop grand. Regarde, je dois faire 3 ourlets sur chaque manche. En novembre, il a fait très froid. Ma fille a mis un pantalon rembourré avec un pull zippé qu'on nous avait donné. À l'école, les enfants se sont moqués d'elle parce que c'était une combinaison de ski. Elle veut plus y retourner. Comment j'aurais pu le savoir ? Et ça change quoi tant qu'elle est au chaud ? Les enfants français sont des tyrans. Un jour, je lui ai promis, nous irons au ski.
T'as des nouvelles de Maria José ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, ni au Resto du Cœur, ni à l'épicerie des Maïs, ni à la PESA. T'es pas au courant ? Elle a été déportée. Ça a été horrible. Ils l'ont attrapée juste après l'école. Ils l'ont placée en centre de rétention, puis direct dans l'avion. Oh non, mais je ne savais pas qu'elle n'avait pas de papier. Et qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, t'es foutu, ils te mettent sur la liste rouge du territoire européen et tu peux même plus revenir. Et sa fille, elle est restée avec son père du coup ? Oui, je crois, mais tu sais, il n'a pas de papier non plus.
Quand Quant à l'Amérique, on verra lorsque nous publierons la petite relation de notre voyage dans ces contrées que plus elles avancent dans la civilisation européenne, plus elles perdent de leur ancienne hospitalité. Cette vertu semble disparaître sous la culture, comme les arbres des forêts séculaires. Et ce sera avec effroi que le voyageur se demandera un jour qui n'est pas éloigné si les choses continuent à marcher du même pas, que sont devenues ces mœurs patriarcales, cette hospitalité des naturels, cette bonhomie du nouveau monde qu'il avait enchanté en lisant les relations des voyageurs des siècles passés.
Hier, on a fait une petite fête chez moi pour accueillir la fille de Rocío, qui vient d'arriver de Bogota. Elle a 14 ans, comme ma fille aînée, mais elle en fait bien 17. Elle a grandi à Bogota, chez sa grand-mère. Rocío a quitté la Colombie quand sa fille avait 7 ans. Et depuis, elle a envoyé de l'argent pour elle, le temps de stabiliser sa situation en France. Elle était tellement émue quand elle l'a revue. Ça doit être tellement difficile de ne pas voir ses enfants grandir. Je n'aurais pas pu le faire, même si ça m'a fait bien galérer. Rocío m'a demandé une attestation d'hébergement pour pouvoir inscrire sa fille à l'école. Du temps a passé. Je me souviens encore du temps où c'est moi qui devais en demander un, à droite à gauche. Les femmes qui réussissent à ramener leurs enfants viennent me voir. Je suis l'experte en scolarité et allocation parentale.
À la CAF, ils rejettent mon dossier encore et encore. Il manque toujours un papier.
Madame, il vous faut des fiches de paye, une facture d'électricité, un justificatif de domicile. Oui, c'est bon, une attestation d'hébergement, ça marche. Ah, mais il faut la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. C'est une association? Ah, mais il fallait le dire. C'est une domiciliation qu'il vous faut. Domiciliation. Vous comprendre. Oh là là. Et puis, les pièces d'identité des enfants, elles sont où? Vous n'en avez pas. Tout a été donné à l'OFPRA. Oh là là. Bon alors, donnez-moi les actes de naissance en attendant. Ah mais, c'est en espagnol. Il faut les traduire, madame. Alors, rappelez-moi, il vous manquait quoi déjà? Les actes de naissance traduits? Ah mais, vous ne les avez pas fait traduire par un organisme agréé? Il faut refaire la traduction, madame. Oui, il faut refaire. Et pourquoi il y a marqué que la mère, c'est Alvarez, et votre nom, c'est Fernandez sur votre récépissé? Vous gardez le nom de jeune fille après le mariage en Colombie? Oh là là! Mais si vous êtes marié, vous ne pouvez pas faire une demande d'allocation, parent isolé. Ah, il est mort, votre mari. Ah, il faut traduire aussi l'acte de décès. C'est quoi ça, un acte de mort présumé? Il est mort ou il n'est pas mort, votre mari? Disparu. Je comprends rien à votre histoire. Bon, je rajoute le papier quand même. Hein. Ah, mais votre domiciliation, elle est périmée maintenant. Il faut un justificatif de moins de 3 mois. Il faut aller en demander un nouveau. Ah, bah voilà, ça y est, tout est complet. Ah, attendez, je ne sais pas pourquoi le logiciel, il dit que vous n'avez droit à rien. Je peux rien faire, madame, hein, c'est la machine qui veut pas.
Madame, c'est la 9e fois que je viens pour mon dossier en 3 mois. Il manque toujours quelque chose. Je dois venir depuis Gonesse rien que pour ça. Je dois faire garder mes filles, je ne peux pas travailler et vous me dites que vous ne pouvez toujours rien faire parce que votre ordinateur ne marche pas. Je vais voir votre logiciel, vous faites n'importe quoi. Regardez, vous avez marqué que j'habite à Colombie. Je viens de Colombie, mais j'habite à Paris. Ça ne va pas marcher si vous mettez Colombie comme pays de résidence. J'ai toujours l'impression qu'on se moque de moi ici. Qu'on fait tout pour me décourager. Oui, c'est ça. Ils veulent qu'on se décourage et qu'on renonce à nos droits. Eh bien non, je ne vais pas me démonter. Je vais les harceler. Et je demanderai à être traité comme une personne. C'est quoi ces pays des droits de l'homme où tu dois gueuler pour qu'on ne te marche pas dessus? Ils savent ce que ça veut dire la dignité ici? C'est ça. Ils veulent me faire croire que je ne suis pas digne. Mais moi, je ne suis pas digne. Je suis indignée.
tierra con un granito de arena. Miro hacia atrás, en las estrellas voy con el río. Aguas profundas, tierras antiguas, aguas que corren. Soy Policarpa, digna, soy soldadera, soy guerrillera. Soy los senderos y las cenizas, soy las canciones. Soy lo que sembra el viento cuando dispersa las semillas. En una calle desaparecida se oye un clamor. Soy la que está alzando su voz.
C'est comme ça pour tous les dossiers à remplir. La CAF, la banque, le compte courant, le livret A, la sécurité sociale, la CMU, la AME, le Pôle emploi, l'OFP, l'OFPRA, l'école, les aides de la mairie. Il faut à chaque fois aller dégoter papiers incompréhensibles aux quatre coins de la ville pour lesquels il faut apporter d'autres papiers pour pouvoir les avoir. Au bout de 3 ans en France, mon dossier de demande de logement social est enfin complet. Je n'arrive pas à y croire. C'était tellement laborieux. Mon assistant social et moi sommes très contentes. Je vais déposer mon dossier à la mairie de Paris. La personne qui me reçoit est très optimiste.
Oh, chers compatriotes, vous qui habitez la maison bâtie par vos pères, vous qui jouissez de toutes les essences de la vie, qui est entouré de votre famille, de vos amis, de vos plaisirs, en un mot, de tout ce qui peut faire le bonheur de la vie, jetez de grâce un coup d'œil de compassion et de pitié sur les êtres qui respirent comme vous, qui sentent comme vous, mais qui souffrent 1000 fois plus que vous. Vous qui ne savez pas ce que c'est que d'avoir quitté la terre natale. N'avez-vous donc jamais songé qu'il y avait de vos compatriotes, de vos amis peut-être, qui se trouvaient étrangers sur un sol éloigné, dont le climat les rendait malades, dont les habitudes étranges pour eux les irritaient à chaque instant, et enfin, dont le langage leur était inconnu, ce qui les privait de toutes sortes, de toutes ressources et de toute consolation? Oh, nos frères, cela est affreux, cela vous glace le cœur de crainte et d'effroi. Ayons pitié du sort des étrangères qui se trouvent dans une position malheureuse, et aimons-les, secourons-les de tout notre pouvoir.
Je vois que tout est complet, madame. Votre dossier est parfait. En plus, vous avez de la chance, vous êtes prioritaire en tant que mère célibataire. Vous n'aurez que 7 ou 8 ans d'attente. Allez, bonne journée, madame. Au revoir. En fait, ce nomadisme épuise tout mon corps. Et pourtant, je ne sens plus aucune partie de ce corps étranger. Mes pieds, qui s'épuisent avec de mauvaises chaussures, pas à la bonne taille. Mes jambes, qui m'emmène partout, de Gonesse à Trappes, en passant par Montreuil, Pantin, Nanterre et Vitry. Mes genoux qui montent et descendent des escaliers à longueur de temps. Mon ventre, un creux qui me rappelle la misère que je prétends oublier. Mon cœur, brisé d'être si loin de ceux que j'aime, morcelé de ne pas fournir le minimum à ma famille et mes filles pour lesquelles je souhaite le meilleur. Mes bras qui me permettent de travailler. Mes mains qui touchent toutes sortes de produits chimiques pour nettoyer les chiottes de bourgeois paresseux. Les épaules qui portent partout ma maison et mes espoirs, mes affaires et mes galères. Tout ce que je possède doit tenir sur mon dos. Mes yeux. Pas moyen de refaire des lunettes à ma vue. Je ne dors pas, et dans le noir, je pleure en silence. Mon nez, qui ne supporte plus les odeurs de tabac, la lourdeur du métro, les salles d'attente aseptisées et les toilettes de l'hôtel jamais nettoyées. Mes oreilles, fatiguées d'entendre des portes qui se referment avec le sourd bruit de l'indifférence. Fatiguées d'entendre « Mais il y a pire, madame !» ou bien « Eh ben, rentrez chez vous, madame, si vous n'êtes pas contente !» Ma bouche, forcée de parler dans une autre langue en ne mangeant qu'une fois par jour. Le cou qui porte ma tête, et ma tête qui ne peut se concentrer sur un problème plus de 28 secondes parce que 2000 autres se bousculent dans mon cerveau pour être résolus. Ma tête, sollicitée à chaque instant, privée de repos, ballottée de partout, traversée d'espoir et de désespoir, de résilience et de détresse. Ma tête qui voudrait éclater la colère qui boit en moi, prisonnière en sourcil. Ma tête et mon corps, prisonnier de ma propre vie.
En fait, elle se demande comment elle tient encore debout et sans que jamais ne finisse cette lutte pour sa propre vie. Tout le monde la voit comme une pauvre miséreuse qui ne survivrait pas sans l'aide des autres, alors que c'est une guerrière qui ne se repose jamais et qui ne s'arrête jamais de combattre. Elle reste debout. Avec la force insoupçonnée, tellement invisible, des femmes étrangères résistantes du quotidien. Avec cette capacité à renaître, la résilience sans limite des femmes que personne ne voit.
Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política, mujeres creando, cantando, tocando, alzando sus voces. Hemos estado en una larga siesta mítica. Más que palabras.